Bienvenue sur le Slow Method Podcast.
Interview avec Patrick Helfer, partie 1. Nous parlons ici de son parcours de la Suisse jusqu'en France, ainsi que sur la fin de cette première partie, sa méthodologie de préparation sportive, donc la programmation qu'il fait. Et j'espère que vous trouvez cette interview aussi intéressante que moi je l'ai trouvée. Désolé pour la qualité de l'audio, je n'avais malheureusement pas de micro à cette époque quand je l'ai enregistré. J'ai maintenant un matériel un petit peu meilleur, ce qui veut dire que l'audio sur les prochaines interviews sera bien meilleur, mais il y a énormément de pépites à retirer de cette petite heure. J'espère qu'elle vous plaira, amusez-vous bien.
J'ai fait toute ma jeunesse à Genève, donc de 13 ans à peu près à... De 4 ans à peu près à 14 ans, grosso modo.
D'accord.
Et en gros, à partir de la 14e année, la filiale suisse de l'Italie Chimonti a fermé.
Ouais.
Et on avait le choix entre déménager à Lugano, déménager à Singapour, à Genève. Lugano, c'est la Suisse italienne.
D'accord.
Ou alors déménager à Paris. Et en fait, mes grands-parents avaient un appart à Paris, à Lugano.
Ouais.
Et pendant un mois, ils pouvaient nous prêter. Donc, c'était carrément plus sain.
Ensuite, que le reste.
Donc, sinon, il fallait que mon père retrouve un nouveau job. Mais il y avait un poste qui était pas mal, comptable et tout. Et donc, c'était vite vu. Et on n'allait pas attendre sans rien faire, juste pour avoir la sécurité. Parce qu'ensuite,
c'était bon,
mais ensuite, il faut quand même la demander. C'est administratif, c'est comme en France. Tu la demandes, tu attends un an. Qu'il faut rester sur place, faire des papiers, des machins, donc on n'est pas resté pour une durée indéterminée.
Ouais, et ton père,
juste
pas
faire
des tours de merde pour...
Bah, surtout qu'il en faisait déjà beaucoup à l'époque pour, avec Paris, pour justement commencer un peu à tâter le terrain.
Ouais.
Donc, déjà, il était là une semaine sur deux ou sur trois. Et moi, ça correspondait en plus à la fin de la seconde, là-bas. Et donc, c'était pas trop gênant de... Enfin, la fin de la troisième, c'était pas trop gênant de commencer le lycée.
Parce que du coup, c'est pareil, tout le monde arrive un peu de... Parce que moi, c'est pareil, on se rassemblait un peu, je retrouvais des potes. Moi, du coup, j'ai fait un lycée à option internationale, parce que mes parents sont anglais. Et du coup, je me suis séparé de mes potes après la primaire. Tout le collège, je l'ai fait avec des nouveaux gens, donc j'avais des potes là. Et ensuite, tous mes anciens potes que je voyais encore, parce qu'ils habitaient pas loin dans ma ville et tout, et on s'est tous retrouvés ensuite au lycée, dans des classes différentes, parce que j'ai continué la filière internationale. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, quoi. En fait, quand tu reprends, c'est genre, salut,
moi je viens
de là.
Ah, bien, tu connais ça. Moi, je l'ai fait le Celsius, quoi, tu vois.
Ouais,
j'étais un peu
le Celsius. On avait un Suisse aussi, vous ne faites pas. Tout le monde a son petit Suisse.
Je suis toujours là, quand tu faisais à l'époque. Ouais. Oh, j'étais ni grand ni petit, mais j'étais plus maigre. J'avais la même ténacité, mais j'avais pas la crédibilité qu'il y a derrière.
C'est plutôt ce qui compte derrière, donc tenace, après on pouvait plus.
C'est ça. Après, de toute façon, la volonté fait la veste. C'est ce que tu veux. Donc voilà, ça c'était un peu le parcours, et je suis arrivé ensuite ici pour faire le lycée. Et après coup, de fil en aiguille, je me suis dit, j'aimerais bien retourner quand même en Suisse. Ça m'a pas lâché pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'avais toujours Genève en tête, donc je le passais quand même très haut Genève.
Ouais.
Qualité de vie, t'as la montagne à côté, je me souviens, je me baladais en vélo tranquillement quand j'étais jeune.
C'est agressé par les problèmes, c'est ghetto et tout.
Et tout le monde, en Suisse, on a une image de la France. Vraiment, on est des.
Tout le monde, tout le monde est américain et ma famille anglaise.
Surtout quand ils voient les gilets jaunes.
Et là, ils se disent que tous les images, c'est genre tout le monde enfermé chez eux, tu sais, on coule, on voit sur les fenêtres et tout.
C'est la gassine, en
fait. Laisse tomber, ils montrent les trucs enflammés, ensuite t'as Notre-Dame là qui est en feu, et tout, genre putain, mais la France est en train de s'écrouler, alors qu'en fait, de la vie continue. C'est un peu fou. Parce que là, je suis passé par Saint-Lazare, il y a plus de flics que de gens. Tu sais, dans les rues, tout est fermé, mais en fait, il se passe rien. Là, il y a des clodos, ils sont en train de fumer leur clope, et puis des filles qui sont là, ça va, GG. C'est marrant, quoi.
Ah, c'est cool, en fait.
Ouais, c'est bizarre.
Donc,
Mais attends, parce que du coup, t'es arrivé, t'avais 14 ans. Donc, pendant 10 ans, t'es resté ici de 20 jusqu'à 24, c'est ça?
Je suis resté, je suis arrivé ici vers 14.
Ouais.
Et puis après, j'ai pas roulé. La seule différence, c'est que je suis resté à Levallois pendant longtemps. Et après à Levallois jusqu'à 27, 28. Selon après, j'ai aménagé ici. Donc, vrai tanguy. Un putain de vrai tanguy. Et voilà.
C'est pas. Alors, je crois que Tanguy, c'était juste une manière de montrer, parce que je pars de. Là, je pars chez mes parents.
Non, j'ai rien à voir. J'ai fait une grosse reconversion. En fait, j'ai fait bac plus 5 études d'ingénierie. En fait, j'ai fait. Donc, le parcours est assez difficile. Je te fais un peu rapide. Il faut arriver en seconde. À la fin de la seconde, il ne voulait pas me faire passer en première S. Je disais pour le 2, je dis moi je parle. Je suis parti en technique. Il a fait une minute. De là, j'ai vécu en classe de l'école de l'école à l'eau. Bonne école. J'ai eu une salle. Premier semestre bien, deuxième semestre super impliqué. La crise, elle n'avait pas de repêchage. Du coup, je reviens sur la vie qui était limitée, un qualité chez licence.
Ah, moi, je me sens un peu. Du coup, là. Ça, c'est avant bac.
Ça, c'est. Non, c'est après bac.
Après bac.
Après bac.
T'as dit. Ah, d'accord.
Voilà. Tu as été première terminale en logique. Après, il faut bien jouer. Raté, donc, je vais en faire première année, c'est universitaire, c'est un peu comme le BPS. Mettre cours dessus, mettre de critères de jugement. Tous les gens de la rue, je crois que tout est passé parce que c'était sorti il y a un an ou deux ans, il était sorti à l'époque, donc c'est n'importe quoi, vous voulez faire un diplôme, ça va juste encore plus segmenter, encore donner moins de possibilités aux gens, jusqu'à ce que vous voulez développer. En France, on a des gros tarifs de l'époque. Donc IUT, en gros, ça correspond à un diplôme, ça c'est pareil, il n'y a qu'en France que c'est valable. C'est, des études, c'est deux ans. En gros, d'université, à la fin, t'as un DUT, un diplôme universitaire de technologie. Mais à part en France, quand tu fous rien, tu vois, il n'y a plus d'équivalence. Donc après, troisième année de licence, on peut faire le bachelor.
Non, il doit y avoir des équivalents que tu dois pouvoir intégrer une L2 ou une L3 et genre.
Ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'étranger, si tu t'arrêtes et que tu dis j'ai un bac plus 2, genre aux États-Unis ou en Angleterre, tu écoutes avec un bac plus 2, il faut au moins un bac plus 3. Donc après troisième année, ensuite master. Et après, j'ai bossé un peu dans l'ingénierie sur l'aviation. Ça m'a vite fait chier.
Alors, parce qu'en parallèle de ça, tu faisais du sport ou
pas? Bah, je faisais toujours, je faisais pas mal de sport et surtout, en fait, je faisais que des arts martiaux. Ah, je faisais que du karaté contact.
C'est lequel celui-là?
Kyokushin.
Ah, yes!
Ça te parle?
Ouais, non, je crois qu'on en a discuté.
On en a discuté un petit peu. Ouais.
Qui faisait du. Justement, il a eu peur du Kyokushin, pas peur entre guillemets, c'est qu'il a dit oh non, le gars il se défonce les mains.
Ouais, il s'est un fait.
Il allait faire du Daido, du coup.
Daido, du coup, bah, c'est la même chose.
Ouais,
mais. Sauf que t'as les projections en plus, écoute-moi en tête, mais t'as la tige.
C'est ça. Ouais, et puis c'était un peu. C'est marrant parce que lui, quand il était petit, c'était la plus petite crevette du monde.
Et que j'avais envie d'en avec les gars.
Ouais. Et du coup, bah, depuis qu'il a la rage, depuis qu'il a genre 13 ans, tu vois. Et donc, il a. En fait, c'est marrant parce que. C'est lui qui a acheté tous les deux laviers.
Ouais.
Du coup, il faisait des dips sur chaise en série de, je sais pas, 30 ou je ne sais quoi, à la maison, tu sais, traction, machin. Après, il a trouvé un cours pour faire de la boxe et des entraînements.
C'est à moi, ça.
Non, mais c'est marrant, tu fais penser à pas lui.
C'est pareil, j'avais dit très tôt, quand j'étais tout mec, et je faisais des dips sur les très tôt, tu vois.
Le mec, le matin, il se faisait un verre de 20 cm d'huile d'olive pour prendre de la masse. Parce que impossible de prendre de la masse.
Putain.
Impossible.
Motivé
le gars. Il pesait rien, et puis après il donnait une baisse, il est passé au powerlifting après.
Ouais.
Tu vois, c'est genre powerlifting, et puis maintenant il est. Il s'est arrêté. Alors par contre, en plus de ça, il a réussi à faire un parcours en biologie.
Ouais.
Et il est passé en neurobiologie en Allemagne, et sur la robotique. Et en parallèle de ça, il fait un travail avec des athlètes de haut niveau. sur la résistance à l'effort et la boucle neurologique de résistance à l'effort et le truc comme ça. Moi, j'y comprends rien, mais.
Le gars est devenu un con, ça.
Ouais, non, mais c'est cool. C'est-à-dire que, genre, voilà, il a. C'est marrant parce que sa famille, c'est tous des intellos. Mais lui, ça a toujours été un peu un dur, tu vois, en même temps. Et j'aime bien, ça fait un peu. Je sais pas si t'as vu Endgame ou pas.
Ouais. Ouais, okay. Non, Endgame, non, j'ai vu.
Ok, peut-être. Je ne spoil rien. voilà, mais.
S'il est dans Infinity War, tu peux me dire.
Non, mais enfin, c'est. Ouais, c'est.
C'est un peu le Hulk, quoi.
Ouais, c'est pas.
C'est scientifique.
C'est pas devenu bodybuilder stéroïdé, quoi. C'est genre. À peu près le même profil que toi. Genre, je sais pas, tu pèses 82, 86.
Bah maintenant, 82, ouais.
82, voilà. Bah lui, t'es 82, 85 max. Okay. Après, peut-être un tout petit peu plus petit que toi, mais un tout petit peu. Et voilà quoi, sec tout le temps, et en même temps, il a sa passion pour le sport, il a réussi à l'amener dans le domaine intello pour que ses parents soient contents qu'il fasse des études aussi. Je suis pas sûr qu'il aurait vraiment voulu, que ses parents auraient vraiment voulu qu'il fasse quelque chose dans le dur comme ça.
Ouais,
genre limite, je pense qu'il aurait bien aimé genre juste pelleter des trucs pour être balèze, et finalement, il est parti faire la neurobiologie maintenant. Et maintenant, donc bah, voilà, il a. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, mais voilà. Excuse-moi. Donc voilà, c'était pour te dire que ça me fait mal, c'est un parcours un peu comme le science.
Ouais, un peu atypique aussi, ouais, à ce niveau-là. Donc Kyokushin, et moi je sais pourquoi je parlais de Kyokushin.
Alors parce qu'en fait, tu parlais de tes études. Ouais, c'est ça. Je t'avais demandé parce qu'en parallèle, tu faisais du sport, parce que tu fais pas genre du jour au lendemain. Non, je suis un jeune ingénieur en
lendemain,
donc il fallait forcément que tu aies un parcours sportif avant ça, quoi.
Non, c'est certain.
Donc,
je faisais donc pas mal de karaté, et après j'ai toujours été hyper sportif hein, depuis que je suis tout petit. C'était la course au début, après c'était juste dès qu'il y avait la pause à 16h, dès qu'il y a la pause à midi.
Foot.
Ah oui, mais c'était foot, c'était tous les sports. Ouais. Parce que du coup, comme j'étais fort en sport, j'avais des passe-droits. Et on était deux, trois et très très forts dans la classe. On pouvait faire des compètes, moi j'étais pas interdit de compètes, ça j'avais une petite frustration, bah pareil, il fallait que je fasse des maths, moi je vais faire du sport.
Ah mais merde.
Bah, donc moi j'avais le niveau pour faire plein de compètes à Genève, et j'avais jamais le droit de les faire, parce qu'on devait sauter des jours d'école, etc.
Et ton père voulait pas?
Et non, mon père voulait pas, et ça n'empêchait pas que je m'entraînais avec ceux qui étaient sélectionnés le midi, et à Genève t'avais un cadre incroyable, genre à midi, quand j'avais 10 ans, on devait lancer le javelot, tu lançais le poids sur le terrain de foot. Ou alors sinon, on avait le droit de choper l'énorme matchante du centre à midi.
Attends, dans la pause de midi.
Ouais, la pause de midi. On mangeait pas et on faisait du son au
terrain. Il y avait des javelots dans la cour de magasin.
Ouais.
Non.
Mais si, on avait
des javelots dans la
cour. Ouais, on avait tous les droits.
Mais ici,
il y a des nerfs.
Il y a des matériels.
Les mecs, ils arrivent.
300 et c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, c'est les pères, c'est aujourd'hui, vous.
Ça, ce qui était beau, c'était une verre différente.
C'est trop cool.
On prenait des ballons de ballon prisonnier, on faisait des balles américaines et tout, on faisait des volets.
Ah, mais trop cool quoi.
Donc, non, c'était génial, on avait un stade d'athlétisme pour nous, on avait un terrain de foot pour nous, et on était libre d'action, on faisait ce qu'on voulait. Donc, très sportif de base. Et en arrivant à Paris, je me suis vite mis aux arts martiaux.
Ouais.
Après, il y a eu la filière techno qui a un peu joué, parce que évidemment, l'ambiance était un peu ghetto. Et moi, j'avais un peu envie de me sentir un peu plus rassuré, parce que tous les gens me prenaient trois têtes.
Pas d'arts martiaux avant la France, c'est ça?
Si. Karaté, Shotokan et Judo.
D'accord, ça marche.
Donc j'avais ce background, mais j'aimais pas plus que ça. Tu vois, pour le coup, Shotokan, c'était trop rigide, c'était trop de kata, t'avais jamais de contact, il se passait rien, moi ça me faisait chier.
Ça. Bah, j'ai fait ça.
Et j'ai cherché le truc le plus violent ensuite, à la Paris, j'ai tout essayé. J'ai essayé la boxe style, le kickboxing, je dis je veux un truc chaud, moi. J'ai envie d'entendre plein.
T'avais pas trouvé ça suffisant, Muay Thai
Non, ah non, parce que je suis arrivé au cours de Kyokushin pour le cours KO fois. Genre, et à l'époque, les élèves, c'était les élèves de l'ancien prof, que le prof actuel, en gros, était l'élève de ce gars-là.
Ouais.
Il a repris la majorité de ses élèves, en gardant un peu l'esprit, et petit à petit, ça s'est un peu lissé, c'est de plus en plus doux. Mais à l'époque, quand j'ai commencé le Kyokushin dans le club, c'était encore les belles méthodes, style à la japonaise, endurcissant ou à la russe, hardcore. On se mettait en route, et à la fin, quelle que soit ta ceinture, on passait tous en rang, on se mangeait des shitas, c'est mon japonais du percut, des uppercuts dans le vide. Et c'était à la suite, c'était boum, suivant, et on tournait en chaîne. Sauf que moi, c'était mon premier cours, en deux uppercuts, je voyais des chocs, je me disais que j'allais venir, hyper cru, les Draks étaient vicieux. Ils tapaient pas les uns d'eux, ils tapaient soit dans le plexus, soit dans le foie.
Ouais.
Deuxième coup, je m'effondre. Alors la sensation, quand tu t'éteins en hypercute, franchement c'est pire qu'à la tête. À la tête, tu vois pas, tu comprends pas.
Ouais.
Là, tu te sens dépérir, c'est horrible. Et là, je me suis dit, ok, c'est hardcore, il va savoir pourquoi.
T'inquiète.
Ça m'a pas empêché de revenir, je me suis dit, ok, c'est ça.
Ah ouais, bah après, je pense que c'est une méthode de sélection.
Ah bah, il a... honnêtement, c'était quasiment un pain. C'est sa face ou sa casse. Bah, c'était tellement violent que ceux qui ne voulaient pas ça, tu leur avais jamais. C'était assez impressionnant.
C'est cool. Enfin, je veux dire, autant écrire, quoi. Boom.
Bah, c'est ça.
C'est parce qu'après, c'est comme ça, au moins le cours, il avance, et puis
Ah ouais, non, là, c'était l'idée. Et donc, j'ai commencé sur ça. Et...
ça, c'était en parallèle de tes études ici. Enfin, non, t'as...
ça, c'était en parallèle du lycée.
Du lycée.
J'ai commencé au lycée.
Et du coup, t'as pu amener ça à Lyon ou pas?
Non, justement, ça m'a énormément manqué. Ouais. À Lyon, je faisais chier tout le monde avec le
petit coaching. C'est trop bien, le coaching. Je te montre une vidéo.
Et à Lyon, non, pas du tout. À Lyon, du coup, j'ai eu un autre trip, parce que j'ai toujours été partagé en gros entre deux sports principaux. C'était les arts martiaux qui me plaisaient énormément.
Mm.
Et c'était, moi, c'est le sport de glisse, le ski.
Mm.
Et à Lyon, du coup, j'étais tout proche.
Ah,
et je me suis dit, est-ce que je passerais pas une équivalence de mono
ouais.
pour refaire autour de toi des cours de ski, tu vois. Et le truc, c'est qu'en prépa, t'as absolument pas le temps de faire ça. C'était vraiment impossible. Mais du coup, voilà, j'étais un peu reporté sur ce côté-là.
En fait, c'est là que ça. Enfin, on dirait que c'est là que l'idée d'être prof.
Exactement.
Parce
ouais,
que,
ouais, vraiment, ouais.
Parce que c'est pas. C'est pas genre. Tiens, c'est cool de faire du ski, c'est genre, non, j'aimerais bien en faire quelque chose.
C'est vrai que je l'avais. C'est marrant parce que je l'ai jamais vu comme ça, mais l'idée de pédagogie a jamais réellement allumé.
Ouais, parce que du coup, mais je sais pas, à cause du ski, enfin grâce au ski plutôt, c'est ça?
Ouais, grâce au ski.
Hein,
je me suis dit, j'aimerais, pourquoi pas vivre d'un truc qui me plaît à fond, comme sport, comme j'aime beaucoup enseigner.
Est-ce que t'avais, oui, mais comment est-ce que tu savais que tu aimais enseigner, est-ce que t'avais appris
à faire ça? En fait, mon père est hyper pédagogue,
ouais.
Et moi j'ai... Il a donc il est très fort là-dedans et il m'a un peu transmis cette fibre-là via les sciences.
Ah.
Et moi, du coup, après, j'avais bien expliqué aussi aux autres.
Ouais. Quand tu savais faire un truc,
ouais, donc ça, là, j'ai toujours apprécié faire ça.
Mmh. Parce que moi, c'est en école primaire que je savais que je voulais être prof de sport.
Ok.
Que je l'ai lâché et ensuite je suis revenu. Mais genre, en gros, à l'époque, on nous faisait faire du tennis avec genre, tu vois, les.
Les balles mousses.
Non, il y avait des balles. Mais nos raquettes, c'était des plaques en bois. Je sais pas si tu.
Ah
tu
ouais.
Vois une planche à découper.
Attends, les plaques en bois, genre les trucs que tu as à la plage, là
Non, c'était pire que ça, c'était carré. Donc, il y avait une espèce de plaque en bois carré avec un manche.
Ouais. Déjà,
qui ressemble à. Tu sais, les planches à découper pour le saucisson, tu vois, par
contre. Ouais, ouais,
ouais. Il y avait des trucs comme ça.
Oui,
ouais.
Ah ouais. Ouais.
Je sais pas.
Incroyable.
J'ai pas 70 ans. T'inquiète pas, je sais pas comment la formule.
Mais... Je vois à quoi elle ressemble. Il y avait des raquettes hyper lourdes.
Non, mais. C'était tout con, enfin c'était juste.
Là, il n'y avait même pas de boyau en fait.
Non, il y avait juste du bois. C'était du bois. Et du coup, j'avais appris c'était en école primaire, donc on devait avoir, je sais pas, 8 ans quoi. Et j'étais genre, ouais, non, tu tapes comme ça et tout. Et ah, tu devrais être prof de sport toi. Et genre, je m'en souviens encore de. Je crois que c'est Charlotte et sa mère.
Et ça a résonné.
Bah ouais, et après, j'étais genre, ah ouais, prof de sport, ça cool, tu vois. Et j'ai gardé ça jusqu'à ce que j'arrive genre au lycée. Et du coup, j'ai fait, ouais, non, c'est la merde, prof de sport, vas-y, je vais plutôt me rendre médecine et tout. Et du coup, j'ai raté ma première année de médecine deux fois.
Ok.
La deuxième, j'ai eu un meilleur score, je suis pas arrivé à très loin de. J'aurais pu être sage-femme, j'avais pas trop envie de faire ça. Le kiné, il m'est passé juste là, tu vois.
Alors,
le kiné était là, genre, putain, le kiné, parce que ça, je kiffe aussi.
Kiné, ouais, pour le coup,
ouais, les manips et tout, je trouve ça cool. Et du coup, bah, je suis allé en bio, L2, et ensuite, à la fin de la bio, je sais genre, je ne pas du tout.
Tu pas voulu tenter Belgique, ou bon, à l'époque, il n'y avait pas
l'envie. Non, non, non. En fait, il y avait une quantité de travail trop. Moi, je suis un peu inflammable.
Okay. Je ne
sais pas si tu as vu mon logo. Hein,
ouais.
Sur Google, c'est un paresseux.
Ça, voilà.
C'est easy, quoi. Et du coup, j'ai eu ma licence de bio en physio, et il y avait un prof qui avait fait un cours sur la physiologie musculaire. Et là, genre. Ben ouais, et genre, ça m'est revenu, je me dis putain, mais tu veux être prof de sport, t'es con, quoi. Et du coup, j'avais un bagage un peu, genre, médecine, un peu bio, c'est-à-dire, genre, bah voilà,
c'est parfait.
C'était micro, et puis après, je suis passé en STAPS, et en master de STAPS, donc il y avait une équivalence.
Ok.
Tu vois, genre, yes, tu vois, je passe en master,
ouais.
Direct, donc ça faisait que j'avais perdu plusieurs années. tout refaire la licence et tout, etc.
Ouais, ouais, ça je fais.
Et du coup, je suis passé en STAPS et c'était facile, quoi. Parce que du coup, toute la télé des autres, c'était genre, oh putain, c'est trop galère la bio et tout. Je suis genre, bah non.
Pour toi, c'était archi
simple. Bah ouais, parce que du coup, t'arrives et puis t'as le bagage. Et c'était trop fun, quoi. J'adorais aller en cours, tu sais.
Ok.
Ça change tout. Tu sais, tu es là, genre, putain, tu manges tes cours, t'es là, genre, sauf on avait des cours sur l'analyse des études scientifiques. C'était horrible. Et puis voilà, quand après, fil en aiguille, je fais ça après, quoi. Du coup, toi, ça a germé grâce au ski.
Ouais, ça a commencé à germer grâce au ski. Et après, j'ai complètement mis ça de côté.
Ouais.
Je suis revenu en France, mais alors vraiment complètement de côté. Je me suis dit...
T'es revenu à Paris, c'est ça?
Ouais, je suis revenu à Paris. Ouais. Et là, je suis resté à peu près dans le même domaine. Donc c'était... J'ai dû choisir un peu de spécialisation. Donc j'ai pris énergie renouvelable, matériaux.
Ouais.
Et puis, ça me plaisait moyen. J'ai fait de la thermodynamique, des trucs hyper casse-cou. Mécanique, des fluides, les trucs hardcore quoi.
Ouais.
Les efforts de foot, les machins, pour moi ça me rendait fou.
Ouais.
Je kiffais pas, en plus c'était pas spécialement simple non plus. Et je me suis remis par contre du coup au karaté.
Ah bah t'as raison, t'as repris les cours.
Voilà.
Salut les gars,
exactement. Je suis revenu, j'ai repris, et j'ai commencé à mettre vraiment à la muscu, mais sans méthode, sans rien. Alors là, pour le coup, je me souviens, j'ai retrouvé maintenant que je balance, mais j'ai trouvé que c'était excellent. Mais la première note que j'avais prise, dès le début, j'étais hyper émouvant là-dessus. J'avais déjà commencé, donc en première année, en premier anniversaire, à noter les trucs sur un petit bout, tu vas dire, bon, je vais faire ça. Et je piochais sur internet, je regardais les coups, ils trouvaient bas, tu vois, genre le cœur bicep, ce qui maintenant, le bicep, regarde, j'avais commencé comme ça. Genre des pompes, les basiques, des dips, des abdos, des squats. Je m'étais acheté une barre et je me souviens, je les ai ces vidéos. Hein. Les vidéos où, en 2007, je vois une petite barre genre de 20 kg. Genre, je fais un épaulé, j'étais fracassé pour amener la barre ici.
Génial.
Et je me vois en train de faire des squats, en train de faire des maguiris avec ma barre des squats, c'est énorme.
C'est trop bien.
J'étais comme ça et j'en faisais peu de la muscu, mais j'en faisais genre 20 minutes tous les soirs. C'était un peu, je me suis fait des études à côté, j'avais pas trop de temps, que j'avais plus le karaté. Et j'avais un petit circuit abdo, pompe, où je faisais une série de 50 pompes et tout. Et bien, mine de rien, j'avais 20 minutes tous les soirs, c'est pour ça que je me disais maintenant client, ça m'a transformé en quelques mois. Et les gens, souvent, et à un moment donné, les gens m'ont dit, mais c'est vraiment parce que j'ai l'impression que t'as vraiment changé. Et au karaté, j'avais plus de punch, plus d'impact, plus de carrure. Et je disais, ah ouais, c'est vrai que je m'entraîne 20-30 minutes tous les soirs, et ça allait payer. Ah ouais, mais je m'étais acheté un punching ball. Truc gonflable.
Ah, le bâton avec le.
Exact. Et j'avais rempli. Non, même pas le bâton, genre vraiment tout le pylône. Et j'avais rempli ça avec de l'eau, avec la baignoire, partout, je racontais pas le truc. Le socle pesait genre 101 kg, et à chaque fois que je mettais un kick, le truc se levait. Je me disais, attends, 101 kg, pourquoi ça bouge? Et donc les voisins, ils ont vite pété un câble. Ouais. Ça n'a pas duré très longtemps. Allez, c'est bon. Donc j'ai très vite dû enlever ce truc-là. Parce que pareil, c'était à l'époque où du coup j'étais à fond en karaté, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon niveau. Donc c'était forcément muscu, il y avait endurcissement. Donc j'ai étudié les méthodes style Iron Pal, comment faire pour endurcir des points, donc un peu là-dessus, travailler ton geste précis, un peu comme Bruce Lee.
Rien du tout.
À l'extrême, hyper intéressant. Et donc je m'étais lancé vraiment à fond là-dedans. Et donc, petit à petit, la balance a commencé à s'équilibrer et il y a un côté qui a presque commencé à prendre le dessus où j'ai commencé à voir, ça a du temps, mais genre après 7-8 ans de karaté, la muscu a commencé un peu à prendre le dessus sur les arts martiaux. J'ai commencé à avoir un niveau en muscu qui me permettait de faire des choses qui étaient stylées et du coup tu prends plus de plaisir quand tu deviens meilleur. Et c'est arrivé à un croisement où trop de blessures en karaté, parce qu'effectivement, Kyokushin, tu te fais hyper mal tout le temps.
Du coup, c'est quoi, c'est un doigt qui pète?
Moi, c'était souvent les pouces.
Ouais, les pouces.
Souvent les pouces, t'amènes un crochet en hypercute, tu te manges un coup à chaque fois. Et les chevilles, quand tu mets le kick, middle kick, t'as pas de protège tibia, tu te prends un coup de pareil.
Mais ça pétait ou c'était des gros bleus?
Moi, c'était des grosses entorses.
Des grosses entorses.
Et c'est relou parce que ça fragilise les entorses. Et donc, tu te retrouves à la fin, tu sais pas quoi utiliser, tu te bats au cou, parce qu'il faut rien faire. Et le délire, parce que du coup, moi, je me disais que j'avais pas forcément une ossature hyper solide. Donc, là, ils ont rien à faire, ils ont tout hyper.
Voilà. Bah, le gars là, c'est jamais moins cassé de sa vie.
Voilà. Et bien ça, c'est un putain d'avantage en ce moment.
Jamais, oui. Alors que moi, je me pète, je me suis pété le nez, un petit
peu. Ouais, mais de toute façon, normal que je me
pète. Ouais, ouais, c'est ça. Genre, tu tombes.
Ah, exactement.
Les gars, je sais pas. Je sais pas ce qu'ils boivent, je sais pas ce qu'ils mangent.
Mais ça, on n'y peut rien. Ouais, c'est un facteur génétique. Donc, je me suis aperçu que je me blessais quand même beaucoup en compète. Et que, ouais, par rapport à, au plaisir que je retirais de la compète et à ce qu'ensuite j'avais en immobilisation, c'était pas tenable en termes. Enfin, c'était chiant. Puis il y avait les études toujours en parallèle, tu vois. Et donc, du coup, j'avais mal, je boitais pour aller en cours. Enfin, c'était une fatigue en plus nerveuse quand tu bosses tes examens jusqu'à 23h minuit. T'as mal partout, t'as la fatigue du karaté et tout. Je me suis dit, bon voilà. Et j'ai commencé à inverser la balance et à faire plus de muscu. Donc là, je faisais des entraînements genre une heure et demie. Mais pareil, c'était toujours, j'allais jamais en salle, c'était à chaque fois chez moi. Et j'avais toujours pas de méthode. Donc j'ai un pote qui a commencé à s'intéresser au kettlebell, au karaté.
Ah, yes.
Et j'ai commencé à m'entraîner quasiment que à la kettlebell.
Ah, c'est marrant ça.
J'ai dû faire 50 kettlebells.
Ça, c'était il y a combien de temps, du coup, la kettlebell
hein. Ça, c'était juste avant d'intégrer la formation, en fait. Hein. C'est vraiment depuis que j'ai commencé à me convertir avec le BPGEF et l'information de coach. Que j'ai épousé les méthodes traditionnelles de muscu. Mais avant, j'étais plutôt axé sur la condition physique, finalement. Donc, typiquement, ce que font les gars qui font des sports de combat. Pas trop de masse musculaire, faire un maximum de poids, de poids de corps, et énormément de kettlebell, parce que t'avais quand même pas mal d'utilité au niveau de la puissance au niveau des hanches pour les kicks. Et c'était pour ça que je faisais pas mal de kettlebell. Même pour le grip, stabilisation, renforcement du poignet.
Mais ça, c'est marrant, parce que je comprends pas pourquoi les... Enfin, après, peut-être que ça a évolué, mais tu sais, en boxe, karaté, etc., il y a assez peu d'orientation vraie muscu. Tu sais, pas muscu, c'est-à-dire que c'est dommage de ne pas aller chercher de la force maximale, quoi. J'imagine que. Et je comprends pas pourquoi ils font genre poids de corps, parce que ce que tu veux, justement, l'idée, c'est, tu sais, en powerlifting ou quoi, c'est quand même d'aller chercher à maximiser ton taux de masse musculaire par rapport à la force que tu peux produire. Et en fait, quand tu veux mettre une mandale, bah, c'est ce que tu veux aussi. Quoi. Alors, c'est à plus ceux qui sont de vitesse, j'imagine.
Ouais, t'as un peu plus de force-vitesse, mais...
Mais tu vois, tu faisais une orientation un peu altéro, pas forcément altéro, mais dans l'idée d'altéro.
Dans l'idée d'altéro, c'est d'avoir efficace.
Une vitesse minimale, tu prends un tempo unique, là, et tu te dis, bon, bah, il faut que la barre soit minimum, à, je sais pas, 2 mètres secondes, ou avec des élastiques, tu sais, tu... Quand j'élastique à la barre et tu fais une phase d'accélération ou je ne sais quoi. Et j'en parlais à l'autre coach, Marc Vouillot, et je lui dis
ouais,
en boxe, tout, les gars, ils sont là, ils font des espèces de mouvements, machin. Il dit, je sais pas, franchement, c'est limité, ça va, mais je l'ai arrêté. Mais en gros, il dit ouais, c'est vrai qu'en boxe, c'est dommage qu'ils s'en rendent pas plus sur des. Tiens, un vrai influx nerveux maximal au lieu d'aller chercher plein de pompes, quoi.
Ouais, c'est clair.
Parce que, alors oui, il y a un côté endurant, mais je comprends pas qu'ils veuillent pas
développer, ouais. Mais j'ai même parlé dans le karaté, maintenant avec leur tout sur l'expérience, je me rends compte, et ça change, mais doucement.
Ouais.
En fait, c'est surtout le manque de connaissances, mais je me souviens qu'à l'époque,
ouais,
le prof, il avait pas les outils nécessaires pour donner une préparation complètement personnalisé et adapté à l'entraînement. Donc c'était un peu comme moi, je composais mon entraînement. Ouais. C'était la même logique, donc il n'y avait pas de logique. C'était, je vais piocher un peu ici, je vais faire un melting pot, et on va dire que c'est un entraînement. Mais sans notion scientifique derrière, sans retour de, il faut qu'il y ait temps de repos pour le système nerveux, pour la récupération musculaire, pour pas forcément aller jusqu'à l'échec, pour aller viser du 50%, faire de la force de vitesse. Il n'y avait aucune de ces données. Donc on faisait juste des pompes, on se mettait même des gilets lestés à l'entraînement, qui faisait genre 10 kilos, et même on se tapait dans le GLSC, donc on se tapait dans les poids. Quoi. Et en fait, dans la théorie, c'était pas si mal pensé, on va s'alourdir, donc ce sera plus cardio, on va bouger, mais dans la pratique, sur la réalité du terrain, ça sert à rien en fait, parce que à quoi ça sert quand t'es après en combat, d'être entraîné avec un GL de 20 kilos? Ça sert à rien.
Tu te sens plus. Mais tu sais, ça c'est pas un moule. Enfin, je sais pas si tu as regardé. Moi, quand j'étais en bio, là, je faisais vachement. Je voulais faire un Ironman. Dans ma tête, parce que là, je voulais faire un Ironman et tout. Mais pareil, genre, entraînement de merde fait à la maison, quoi. Enfin, donc, j'avais acheté des lestes pour les mettre aux chevilles et je suis allé courir avec.
Ah, il y a plus un truc à
faire. Quand je suis là, je fais une heure et demie, tu vois. Genre, je courais bien. Je faisais le truc à l'époque, je pars. Je suis au bout de mon circuit avec mes lestes de 500 grammes hein, seulement.
Ouais.
Mes genoux,
ils avaient traqué.
Parce que tu sais, écarté, et là tu lèves le pied, ta poids qui tire ton genou, ça t'écarte, bam, bam, bam. Et j'avais envie de pleurer au bout de 45 minutes, genre.
Il te dit, il y a une connerie, ça.
Non, et après, j'étais genre, putain, mais t'es con, en fait. Et dans ma tête, c'est une logique, mais oui.
C'est pas logique.
Ils sont cons ou quoi, normalement. Ouais. Et après, je te dis, arrête, non, c'est toi qui es con, tu l'as fait. Et ça, là, donc, je l'ai enlevé. Je suis rentré avec mes poils dans les mains, donc ça allait beaucoup mieux, parce que du coup, bah, mes genoux, ils étaient resolidarisés. Parce que du coup, j'avais marché genre 5-10 minutes pour les laisser tranquilles. J'ai plus le monde, parce que j'avais mon petit pack d'eau, forcément, sur le dos en plus. Mais ouais, ce truc-là, peut-être pour te renforcer mentalement, c'est possible, parce qu'il y a ce jeu-là aussi à prendre en compte.
C'est ça.
Comme tu disais, alors endurcissement, j'imagine que c'est un endurcissement plutôt osseux ou de peau, ou je ne sais pas comment ça fonctionne, ça, parce que je n'ai jamais regardé. Mais il y a aussi cet aspect endurcissement mental, tu sais, d'être capable de. Bon, vas-y, bah.
C'est principalement mental.
Ouais, c'est
une adaptation légère du système nerveux, où bah, tu détruis un peu la fibre nerveuse, donc tu ressens moins les coups, mais
ouais. C'est
principalement mental. Et tout comme il y a une mémoire musculaire quand tu fais des sports, là, t'as une mémoire à l'encaisse. Pour le coup, c'est la mémoire qui se perd le plus vite. Hein. Comparer la mémoire d'endurance, de force pure,
ouais.
Ce que tu veux,
ah, genre,
la mémoire d'encaisse, c'est la plus ingrate. Ah, c'est l'horreur. Ça met des années à acquérir avant de pouvoir te faire le variole et dire dans la rue, vas-y, mets-moi un low kick, mets-moi 20, 38 coups autant que tu veux dans le ventre.
Ça arrive à rien. Aïe,
tranquille, il ne se passe rien. Et par contre, en quelques semaines, ça se pose très très vite.
Donc après, tout de suite,
parce que le corps, il n'en a vraiment pas besoin de ça. Donc, vraiment de l'entretenir très régulièrement,
ouais.
Bah, c'est le truc que tu perds le plus vite.
Ah, c'est marrant.
Donc, l'endurcissement, c'est très ingrat.
Parce que j'avais fait un peu de Viet Vo Dao.
Ouais.
Ouais, voilà.
C'est enfin,
trop, je sais plus combien, 3 ou 4 ans, comme ça. Donc, ça
prend pas mal.
Ouais, bah alors là du coup c'était une école où parce que il y avait des kimonos noirs, donc j'avais trouvé ça stylé. c'était même pas des trucs volants, hein, je sais pas quoi, c'était une espèce d'école bâtarde entre. Je tournais un peu au carrefour du Kung Fu, Viet Vo Dao, okay. Plus un peu karaté.
D'accord.
Donc, les coups de poing ils étaient moins mou, tu sais, c'était
okay.
Plus comme ça.
Okay.
Mais pas de trucs volants, ou je ne sais quoi.
C'était pas les fameux coups de pied qu'on fait la réputation du Viet Vo Dao, tu chopes la tête et tu tournes derrière.
Tout bifri, hein. Il y en a un des trois, qui faisait ça, il faisait ce spectacle de Viet Vo Dao.
Ouais, c'est vrai.
Voilà. Et donc, un peu déçu de ne pas faire ça, mais après, c'était cool parce que tu sais, t'avais tes petites ceintures, t'évoluais, tout. Et puis en fait, au bout d'un moment, bah, j'en ai un peu marre. Enfin, j'en ai un peu marre après, mais si tu étais né et un doigt en fait.
Ah
ouais. Et du coup, ou t'avais pas le droit de taper à la tête.
En plus,
ouais, voilà, donc j'étais un peu là dans le moteur. Voilà, et ouais, j'ai un peu abandonné ça. Et puis après, avec mon pote avec qui on faisait ça, parce qu'on faisait ensemble, bah lui là justement, et ben bah, après j'ai perdu l'intérêt parce que j'avais plus mon pote quoi. Après j'avais pas aller tout seul, ça me faisait chier.
Ouais, je comprends.
Et puis bah, ça fait flop.
Ouais,
pas très longtemps après la compète, hein, parce que du coup j'étais interdit d'y aller pendant. Combien de temps donc mon ex remette 6 semaines
après, ah ouais c'était interdit ok
ouais. C'est cool j'avais le bandeau
ah ouais t'avais ce truc là
ouais les pété genre ah, pro j'avais
fait de la grosse
ah ouais je portais
mais par contre t'as vite remis parce que du coup
ouais non ça a été ouais. Mais c'était tout bleu hein, tout partout là mais j'étais trop cool j'adorais aller dans les magasins et acheter genre de la bière parce que genre ça faisait un peu genre putain le clodo
mais c'est ça qui est incroyable c'est que moi j'ai toujours j'ai jamais aimé faire mal,
ouais.
Mais quand j'avais mal, et que genre mon entorse ou du boitais, étrangement, j'étais plus vulnérable que jamais, mais je me sentais archi puissant.
Ouais.
Je sais comment il est venu cet entorse.
Ouais.
Et j'étais fier de revenir avec des yeux ouverts noirs et tout.
Ouais.
Ça faisait vraiment le mec un peu.
Et il y a un pouvoir.
Castagneur.
Il y a un genre de. Ouais, et je sais pas comment. Mais moi, c'est la réaction des gens qui faisait que je me disais.
C'est chouette.
En fait, il y a un vrai. Enfin, les gens s'écartent.
Il y a un côté égo qui. C'est un booster d'égo individuel. En fait, tu te sens puissant.
Ah, mais c'est clair.
Ouais, tout de suite, t'es catalogué peut-être fou furieux.
Il s'est battu. Ouais.
Mais ça change tout sur le regard des gens. C'est comme tu dis, les gens s'écartent, il n'y a pas de problème.
Du coup, c'est vrai. Genre. Je me disais la réflexion à l'époque pour me dire je me suis fait péter la gueule. Et les gens ont peur de moi.
c'est ça qui est énorme.
Ouais, c'est trop bon, mais c'est genre. Attends, je comprends pas, j'ai perdu.
Je veux dire que c'est déjà que de prendre un coup.
Ouais.
Il y a assez peur d'en prendre un.
Ouais,
et puis ça. Après, contre un mec qui savait se battre.
Ouais.
Ça change.
Ouais. En plus, c'était horrible parce qu'à la compète, tu sais, c'était une on était 4 dans la catégorie, donc j'ai gagné mon premier combat et le deuxième j'ai perdu.
Je les connais en fait.
Ouais,
tu vois. Au deuxième tour, t'es une live.
Non, mais voilà, c'est ça. Trop de la merde. Et tu sais, j'étais là, genre, et t'as vu Kickboxer 1
Ouais, bien sûr.
Et bah, tu sais, le. C'était un peu le couloir et tout. Bah, c'était mon anniversaire de.
Ok.
Donc, tout le gymnase entendait. Et le mec, il tapait contre un pao, tu sais, son
mec, il est là. Ouais, ça, c'est toujours hyper stressant.
Ouais, il laisse tomber parce que du coup, moi, j'étais genre, allez.
Bon, c'est lui, mon adversaire.
Ouais, c'est ça, c'est la merde. Et après, donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a fait un enchaînement puis crocheté comme ça.
Ok.
Donc, du coup, j'ai essayé de parer, mais comme
c'est un coup,
j'ai
la garde.
Ouais, donc, il m'a pété le petit doigt comme ça.
Ok.
Hop, et après, il m'a mis un crochet. Boah! Normalement, ça devait être sur le côté, mais il me l'a mis en pleine gueule.
Et pour ça, il était pas censé te mettre à la tête.
Alors, il y avait droit sur. Complètement de merde. Droit sur les côtés, pas au-dessus, et ni devant le visage. Donc,
C'est ça que c'est l'air de merde.
C'est tellement merdique.
Mais
t'as. Non, mais ça.
Ça n'a aucun sens.
Non, mais. Justement, moi, j'étais là, genre, mais. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai fait cette compète de merde.
Je visais les temps.
Et du coup, ouais, donc il m'a mis un crochet. Et si, celui qui tourne la tête, et genre, et du coup, bah, lui, il a gagné parce qu'il avait gagné au point déjà. V-O-I-N-T.
Ouais.
Gagné au point, et donc, ils ont raté, bon, bah, fin du match, parce que, bah, mon avis, il est en train de pisser le sang. Mon doigt était devenu bleu. Ah, tout est cassé. Ah, l'hôpital, donc j'allais à l'hôpital de
Massy. Ah, c'est
là le combat, ouais. En plus, pour le retour. Dans le RER, donc tu sais, bandagé, machin et tout. Et des groupes de racailles qui arrivent, tu t'es pété la gueule, mais. Ah ouais, du coup, ils arrivent à toi, t'as de l'argent sur toi et tout. Enfin, non, la merde.
Ah ouais.
Du coup, genre, putain, mais c'est trop nul. Je suis allé dans une compète au fin fond du monde, j'ai mis 2h30 à arriver, je mets 2h30 pour rentrer. Et tout ça pour rien.
Ça, c'est le problème, Kyokushin. T'as le même problème ici, c'est que tous ces sports qui sont pas connus en France. Kyokushin. Étonnamment, hein, c'est après que je l'ai su, mais c'est le style de karaté le plus pratiqué dans le monde.
Ah, c'est vrai?
Devant tous les autres. Devant le Shotokan, devant le karaté do traditionnel, le Wadoryu, tout ce que tu veux, c'est le numéro 1 dans le monde. Sauf qu'en France, on connaît peu.
Ouais.
Et Kyokushin, c'est encore pire que Kyokushin. Donc pour trouver d'adversaires, comme tu vas aller au fin fond de la France, à Normandie, parfois on va aller en Belgique, en Hollande, pour faire des compétitions. Effectivement, quand tu ressors, tu as allongé 6 heures de route aller, 6 heures de route retour, tu as 14.
Ouais.
Bah, c'est marrant, je me dis quand même, j'ai fait tout ça pour ça.
Pourquoi?
Ça fait un peu chier.
Ouais, c'est ça.
Tu pourrais faire d'autres sports de combat, peut-être moins de blessures ou autre chose.
Ouais,
ou
un autre sport, tu vois. Simplement, tu.
Et moi, tu files en aiguille, et c'est comme ça aussi que j'ai bifurqué sur la boxe thaï. C'est marrant, parce que dans l'inconscient des gens, on te dit, ah, la boxe thaï, c'est que c'est plus violent, mais comment je suis arrivé à la boxe thaï?
Ouais.
Je prenais les low kicks, vraiment, je disais aux gens, mais c'est une blague, quoi. Ils me disaient, bloc, je disais, j'ai pas besoin de bloquer, genre, je sens rien, quoi.
Ah, c'est marrant.
C'est comme en Kyokushin, ton question. On t'apprend même quasiment à pas bloquer, c'est que de l'encaisse pure. En termes d'encaisse, c'était high level. Genre, moi, les coups ne faisaient rien du tout. Par contre, la tête, je trouve cher parce qu'on n'avait pas de coups pour la tête.
Ouais,
comme la tapais avec les calotos.
Et du coup, ta garde.
Bah, du coup, moi, j'avais une garde un peu. Mi-Shotokan, mi-Elema, un peu entre les deux.
Mais parce que, comme. Les coups de
pied. Là, c'est bas, ouais. C'est bas.
Pied à la tête.
Ouais, t'as
ouais. Donc, il y avait quand
même une garde. Ouais, mais on était obligé de parer.
Ouais, ok. Donc, t'étais pas là, comme ça, comment.
Mais t'étais. T'es pas dans l'appréhension de te manger un direct ou un jab.
Ouais, ça marche.
Donc, du coup, tout passe, en fait.
Et en fait, c'est vite remonté avec le Muay Thai.
Ouais, ouais, voilà. C'est vite remonté avec le Muay Thai. J'ai vraiment appris à me battre avec les poings, avec la boxe thaï. J'en ai fait aussi plein de sparring en boxe anglaise. Du coup, je suis une fan de la boxe anglaise. Mais, en termes d'encaisse, franchement, c'était une blague, quoi. Plus rapide. Ils sont plus rapides en taille. Ils ont des coups. Tu vois, il y a des techniques différentes sur
les jambes tendues.
Exact. C'est vraiment jambes tendues. Donc, ça fouette, c'est plus un effet de claque, tu ne vois pas trop arriver, très rapide. Et en karaté, tu as quand même plus de rotation de hanche, tu emportes plus le poids, l'impact est plus dur, mais c'est plus lent. Donc, tu as quand même des styles de combat différents, toute la palette de coups de pied. En karaté, bah, tu n'utilises pas trop en taille, ouais. Tout simplement parce que tu as le bout des poings à la tête. Et ça change tout, ta physionomie du combat. Ouais. Genre, moi, j'étais un fan des coups de pied retournés, des calcato, des pieds marteaux et compagnie. Les gars me disaient, mais arrête, fais-moi des high kicks, c'est tout. Et au grand, et de temps en temps, on va lancer un retourné. Alors forcément, quand tu lances un retourné, les gens ne comprennent pas trop. Ça ne se fait pas tant que ça non plus en thaï. C'est plus kickboxing déjà que pure thaï. Et donc j'ai essayé les deux, c'était une place mixte thaï, kickboxing. Et moi j'ai préféré kickboxing, donc je me suis vraiment mis beaucoup plus au kick. c'est plus dur, elle impacte beaucoup plus d'anglaise. Ouais. Moi, je n'aimais pas trop le clinch que t'as, le tube dans le cou, tu fais pivoter, tu tournes, c'est un peu grappling debout, ça me gavait un peu.
Ouais.
Je préférais l'aspect
frappe, quoi.
Ouais, l'aspect ouais. frappe. Et les kickboxers sont bons en anglaise.
Ouais. Donc, du coup, l'anglaise du thai, enfin, j'imagine que si t'as une boxe thai moderne, j'imagine que l'anglaise doit être vraiment de la boxe anglaise, mais pour les thai, c'est. Enfin, à la base, ça ne devait pas être ça, quoi.
Non, c'était pas ça.
Ça devait être assez simple.
C'était assez simple, ouais. C'était assez rudimentaire. Donc, autant dire qu'il y a un mec qui est bon anglaise en taille, et puis on se.
Ouais, c'est ça. Parce qu'il casse la distance, et puis.
Ah, il casse la distance, c'est un pur boxeur taille. Il ne sait pas trop comment gérer un bon boxeur anglaise.
Ouais, d'accord.
Ouais, dans la tradition, c'était plus tu maintiens la garde, tu bloques, et tu rentres avec un coude à la rigueur. Une fois que tu es rentré, c'est. Trois coups de genoux dans les côtes, balayage. Ouais. Ça, c'est un grand classique, c'est très beau à voir.
Ouais.
Des beaux balayages taille. Et c'est là, tu vois que les combats sont pas du tout pareils sur l'art martial. Et ça m'a fait vraiment remettre du coup en question complètement le karaté kyokushi.
Ouais.
Je me dis, en fait, c'est pas très réaliste ce sport.
Ouais, d'accord.
Parce que t'as jamais de coup pour la tête. Alors, je me dis, dans la rue, c'est le premier truc, quoi. Tu as dans la tête. Mais mine de rien, t'as beau voir mon caisse sous furieux, bah, on s'amuse pas non plus à se mettre des pêches à main nue dans la tête. Tu vas pas la travailler sans caisse, tu la travailles parce qu'à un moment donné, tu as trois coups qui passent. Mais consciemment, tu vas pas t'amuser à te manger des droites.
Ouais. Et je crois que l'encaissement d'une droite, ça se travaille pas.
Tu peux travailler, et ça c'est utile, c'est que tous les boxeurs, tu travailles ton cou.
Ouais, mais.
Pour endurcir, du coup, l'immigration, amortir plus. Après, tu as le machin de verre, tu l'as ou tu l'as pas. Du coup, il s'y changera rien. Hein. C'est-à-dire que tu as le verre tout le temps, de toute façon. Et c'est là où je me suis aperçu, effectivement, que c'était pas très réaliste et que c'était pas si utile que ça tout court, d'avoir une encaisse de coups furieux, quoi.
Ouais.
Je vais pas dire aux gens, ok, vas-y, tape où tu veux, y'a aucun souci. Genre encaisse. Non, c'est pas trop comme ça, c'est plus une question de timing, de blocage.
Après, j'imagine que ça va dépendre, parce qu'en combat, si tu peux faire semblant que ton low kick il m'a rien fait.
Ouais.
Et ça, il y a cet aspect-là aussi, tu sais, quand tu vois. Parce que j'ai regardé. Enfin, il y a un moment, on s'amusait avec ce pote et d'autres potes, faire des soirées MMA, où on gardait genre du MMA. Et en gros, comme c'était dans une ville et un pays différent, on faisait un peu plat national ou de la vie, ou quoi. Donc, un jour, c'était au Canada, on s'est fait une poutine et une palette longue, et tout comme ça, c'était stylé. Il y en a une fois, c'était aux États-Unis, donc on s'était fait genre un barbecue, je sais pas quoi. Enfin, bon, voilà. Du coup, on regardait ça. Ouais, c'était une bonne dizaine d'années maintenant. Et du coup, ouais, par contre, quand tu regardes le MMA et que tu vois le mec, genre dans la cuisse, c'est que le mec, il a l'air de s'en foutre, alors qu'un low kick.
C'est terrible.
Ouais, putain, mais c'est horrible.
C'est pire.
Horrible.
Pour pouvoir juger, c'est les pires KO que j'ai pris.
Ah, le KO low kick.
Le KO low kick, parce que le KO guide, il est terrible sur le moment. Mais il ne se souvient pas de rien.
Ouais, alors que
le cas de tête, bon, bah, tu fais attention, donc tu passes 2-3 examens, ça fait peur, tu te réveilles, tu vois plus rien.
Oh,
et encore, moi je trouvais que ça passait. Mais alors, le cas au kick, honnêtement, c'est pire. Parce que oui, le cas au kick, c'est un mois. Moi, je m'en souviens, les pires que j'ai pris dans le kick, honnêtement, c'était plus d'un mois. Genre, je revenais après un mois, je pensais que j'étais guéri, qu'on me faisait ça. Et je disais, ok, alors non, en fait, ça va être possible. Et
tu fais quoi, une décharge de malade?
Ouais, tu développes une hypersensibilité. En fait, ça te fait une. Bah, t'as déjà eu des béquilles, ça te fait une sorte de paralysie.
Ouais.
Donc, t'as une genre de contraction musculaire d'un coup, tout muscle se tend, et ta jambe lâche, en fait, tu t'effondres. Ouais. Tu t'effondres et tu ne peux plus marcher, genre la moindre vibration, ça te fait des chocs électriques. Et du coup, c'est devenu un peu ma spécialité, c'était j'adorais mettre des câbles qui marchent. Parce que je sais que ça perturbe. Quand tu mets un mec KO au kick,
pour le reste de sa vie, c'est.
Ouais, c'est pas bien avec sa vie. Il va faire la compète. Si jamais même s'il qui gagne, il va flinguer les jambes, il ne peut plus rien faire.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Il se déplace pas pareil.
Ouais.
Tout est dans les jambes. C'est vicieux.
J'écoute un podcast. Joe Rogan, ça dit quelque chose? Joe Rogan. C'est le mec qui commente le MMA.
Okay.
C'est un ancien. Je sais pas, genre, il faisait vachement d'arts martiaux étant plus jeune. Là, il est sur du jiu-jitsu et tout. Et il fait un podcast. Et en fait, dedans, il dit le kickboxing américain a changé le jour où ils sont battus. Où ils ont fait se battre un mec de Muay Thai contre un. Parce que lui, ils connaissaient pas le kick. Tout ça.
Okay.
Et c'est le premier combat où le low kick arrive.
Okay. Tu vois,
genre, pourquoi il tape dans les jambes? Et en fait, le gars de Muay Thai. Mais je te jure, mais ça fait trop mal à voir, quoi. Parce que
défonce, mais genre il fait que du low kick, il a une jambe au type, et le mec, sa jambe, tu vois qu'elle est molle, mais il est dur, hein, le kickboxing, parce que je pense que s'il s'en est jamais pris, que là tout d'un coup il est là et qu'il va défendre le
mec. Il va être très très chaud au mental.
Mais genre, tu vois sa jambe changer de couleur, enfin c'est. Et franchement, genre, rien que d'y penser, j'ai un peu la nausée, parce que je me dis que le pauvre, genre, je sais pas combien de temps il a.
Donc elle change de couleur pendant le combat, c'est que.
Oh là 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 là. Et genre, tu le vois, genre, il a peur, tu sais, il a peur avec sa jambe et tout. Et ouais, donc.
Ouais, dans les KO low kick, c'est terrible. Mm. Et c'est là où tu vois que c'est clair, tu vois. Un low kick, il y a. Et l'intérieur est. Fait mal plus vite.
Ouais.
Mais tu gardes assez bien peut-être un petit peu moins longtemps. Ouais. Et par contre, t'as une décharge en low kick tout à l'heure qui est hardcore.
Tu vois.
Spin ici.
Bah, tu sais, il y a un truc qui s'appelle le réflexe. Comment ça s'appelle? Genre, en gros, si on te caresse l'intérieur de la cuisse du genou vers le haut, il y a des couilles qui remontent.
Ah!
Et donc, j'imagine qu'il va y avoir un nerf là-dedans qui va lier voilà, toute cette zone-là qui dit.
Qui les gars, hyper désagréable.
C'est ça. Donc, je pense que le low kick est là. Et l'extérieur, c'est toute cette bande nerveuse.
Ouais, là, c'est vraiment son nerf fémoral. Ouais, c'est t'as plein d'endroits, et c'est marrant parce que j'avais vu il y a un an et demi, Franck Oppels qui expliquait lui comment il mettait les low kicks. C'est marrant parce que moi, là, effectivement, t'as trois façons de mettre les low kicks. Moi, je les mettais comme la dernière qui présentait.
Ouais.
Quand tu le mets vraiment assez bas, genre juste au-dessus du genou.
Ouais.
Là, t'as vraiment l'impression que ton genou va s'ancrer au sol pour que tu enfonces. Soit le plus classique, tu mets vraiment à l'échelle de la cuisse, en plein milieu dans le fer de nerf fémoral. Là, où t'as les forces les plus sensibles, ça s'applique.
Ouais.
Ou sinon, là, je le mettais différemment, je le mettais plus haut, je le mettais juste en haut au niveau de la hanche, juste en dessous de l'articulation de la hanche.
Ouais.
Pas dans le code précis. Et là, tu ciselas carrément le coup encore plus haut. Là, tu te trahis tout.
D'accord.
Et là, t'as une décharge, tu mets en haut de la hanche. C'est encore pire. C'est quasiment la zone à pied, mais elle est un peu dangereuse à viser parce que tu peux vite taper trop.
Tu tapes dans le.
Taper ici, parce qu'en plus ça te neutralise le fessier quasiment, enfin ça te fait tout.
Ouais.
Moi j'aime bien taper juste en dessous de l'arche.
Béant !
Dans le haut de la cuisse. Et ouais, ça c'est une zone solide. Et sur le dos sensible, t'as plein de zones comme ça précises.
Et du coup, c'est ça qui t'a donné envie de devenir prof de sport ?
Et non.
Non.
Bah non, pour finir, donc j'ai bifurqué pas mal ensuite sur la muscu, je me suis de plus en plus, donc j'ai commencé vraiment juste à me renseigner. Et à peu près conjointement, donc à la période où j'avais freiné les sports de combat, je faisais encore un peu de boxing, mais l'ambiance c'était plus trop ça. Je faisais quand même du coup nettement plus de muscu. Et mon pote que j'ai rencontré au karaté, donc on se connaissait depuis déjà quasiment 10 ans, était devenu prof de sport tout récemment. Et à l'époque, moi, j'arrivais à être en poste, en tant qu'ingénieur dans l'aviation, me faisais chier. Je me disais, mais je ne sais toujours pas ce que je veux faire.
Ah, c'est marrant.
Mais en fait, c'est quand je me disais, je ne sais pas ce que je veux faire, mais je bosse en fait.
Je suis en train de faire un truc, mais ma copine, elle n'est pas rien.
Mais je me disais, qu'est-ce que je fais?
Fais l'audit et elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Quoi. Et là, genre, mais je vais, tu vois, plus tard, je vais trouver, tu vois. Mais en fait.
Et c'est marrant parce qu'en université, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et là, j'étais en job et je me disais, ça y est, là, tu es, pourquoi tu dis qu'est-ce que je veux faire?
Ouais,
je
fais
quelque chose. Je sais pas ce que je veux faire.
Mais
je veux passer autant.
C'est super comme déjà de t'être rendu compte que tu te rends compte que tu penses à ça. Parce que tu peux te le dire sans te rendre compte que tu es en train de te le dire.
Ouais.
Je sais pas si c'est logique ce que je viens de dire, mais voilà quoi. Tu vois, d'avoir fait, mais en fait, dans un poste, tu sais que tu veux pas le faire, mais bouge-toi, mec.
C'est clair.
Bouge ton cul.
Je m'en suis aperçu. Je me suis fait des rapides projections, des plans. Je me suis dit, ok, l'ambiance était excellente. Hein. Super ambiance. On est à l'époque tous anglais parce que c'était hyper cosmopolite. T'avais la boss était turque. Mon patron était français, donc avec lui je parlais français. Mais sinon, il y avait un indien, une allemande, une indienne, un allemand, un british qui était une crème, qui était très très drôle. Ancien rugbyman, genre 10 fois tourné, il était hyper marrant ce gars-là, l'informaticien. Et donc voilà, on parlait quasiment tous anglais entre nous. Là, il y avait une finnoise aussi, une finlandaise. Et donc, ambiance de ouf. Job pas si mal payé parce que c'était mon début de carrière. Sur les horaires, c'était flex, il n'y avait pas de problème, je faisais mon boulot, tout allait bien, ambiance top. Enfin bref, toutes les conditions étaient réunies pour le bon job pour commencer, tu vois, dans une start-up. Et mes missions étaient plutôt pas mal, hein. Enfin, c'était assez intéressant ce que je faisais. Je me suis dit, ok, là, toutes les conditions se réunissent et je n'aime pas.
Ouais.
Je me dis, la proba, franchement, que je trouve mieux, elle est faible, voire inexistante.
Ouais,
et donc, je vais faire quoi? Je vais trouver un autre job ensuite qui sera peut-être moins bien, mais qui sera mieux payé. et ça ne me plaira pas, je mets toujours le même. J'arrive le matin, je me pose dans mon PC, et que tu sois ingénieur ou peu importe de ce que, ingénieur de quoi que ce soit, bah, tu es derrière ton PC, tu fais de la modélisation, tu fais des appels d'heure, tu fais des calculs, mm. et ta journée se résume à rester derrière ton PC. Ouais. Rentrer le soir,
ouais.
il fait nuit, tu arrives, tu repars, il fait nuit, tu as ta pause déjeuner, tu vois tes collègues. Tes collègues, c'est ta première famille finalement.
Ouais,
tu la vois
2 heures le soir.
Tu partages même pas forcément les bons moments, etc. Tu rentres, bah, je vais faire mon karaté à 20h, mais je suis claqué de faire mon karaté à 20h. Mm. Je rentre chez moi, du coup, je mange à 23h. À 23h, j'ai ma journée de boulot, j'ai mon karaté, je me fais plein la gueule. Je suis crevé. Je me lève le matin, j'ai encore raté mon cul et je me dis, ok, elle sonne. Et je me dis, ah ouais, mais attends, c'est sa vie.
Ah, c'est bien,
en fait, ça m'a fait mal. Je me suis dit, ah non, mais c'est trop triste. Vraiment, ça peut pas être ça. Il va y avoir un autre sens, une alternative, un truc.
Ah, ouais.
Et je sais que c'est ouf, mais ça, c'est une question quasiment existentielle qui me trotte dans la tête depuis que je suis tout petit. Ah, j'apprends la vie active depuis que je suis petit. Depuis que j'ai 7 ans, je me dis, alors le boulot, quand je vais rencontrer mon père, c'est ça, c'est le stéréotype. Je suis avec ma petite valise et je vais à la famille tard le soir. Je me dis, putain, c'est ça la vie. Ah, ça m'a toujours stressé depuis que je suis tout petit.
Je savais envoyer mon père, parce que mon père était informaticien, il était webmaster pour une entreprise qui s'appelle Bulle, qui n'existe plus maintenant. Et en fait, il rentrait, il mangeait avec nous. Donc ça, tous les soirs, on avait le repas où il mangeait avec nous. Mais avant, après, le matin, il était dans... Alors, donc, le matin, je ne le voyais pas parce qu'il partait avant qu'on aille... Non, c'est faux, il partait après qu'on aille, qu'on partait. Mais il était debout avant, il bossait le matin. Et puis, il était déjà en bas avec son café devant son ordi. Il travaillait avant d'aller travailler. Donc nous, on partait, on rentrait le soir. Il rentrait genre hyper tard. Il rentrait au moins pour 20h, 21h, l'heure à laquelle on mange toujours tard. Les Anglais mangent tard, donc voilà. Et ensuite, bah, il était devant l'ordi. Et puis il travaillait, quoi. Et quand je me levais parfois pour aller boire un verre d'eau ou aller pisser ou je ne sais quoi, et ben, je voyais encore bosser jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin.
Et ça.
Et genre, j'étais là, genre, jamais je travaille besoin. Genre, jamais je prends un boulot. Je voulais faire médecin parce que j'étais pas dans un bureau.
Ok. T'es en contact avec les gens.
Ouais, c'est ça. Et en fait, je voulais pas être. Le bureau, ça me. Ah, mais laisse tomber. Parce que je voyais mon père, je dis, je parle pas à mon papa, en fait. Il est là, mais il est pas là, quoi, tu vois. Ouais. C'est trop bizarre. Et moi, j'adore mon père. Hein. Il est super marrant. À chaque fois qu'il est à table, c'était cool parce qu'il était là avec nous, moi, tu vois. Pendant une heure et quart, le temps qu'on mange. Parfois moins, mais c'est pas grave. Au moins, il était là, il blaguait avec nous, c'était cool. Mais tout le reste du temps, bah, il bossait, quoi.
Mais je te dis, ouais, c'est ça, quoi, finalement.
Ah, non, je me suis dit, c'est pas possible. Je fais passer ma vie. Je fais tout ce que tu veux d'autre, mais c'est bien parce que mon père, enfin, nos parents, n'ont jamais poussé à faire des choses qu'on n'avait pas envie de faire. Okay. Mon grand frère, il est artiste, mon petit frère, il est parti faire un travail dans un bar, tu vois. Et ses études, il est allé un peu dans tous les sens. On est tous très différents de nos parents, en plus. Et du coup, je la remercie de ne pas nous avoir poussé là où on veut pas aller, quoi. Et du coup, d'avoir farfouillé, même si c'est pas des, même si on n'est pas, tu sais, cadre, je ne sais quoi, tous, bah, peu importe, tu vois, on est bien dans ce qu'on veut faire. Et puis voilà, quoi, c'est cool. Enfin, bon.
Ouais, ouais, c'est top. Bah, enfin, c'est, bah, du coup, ça me fait penser un petit peu aussi à ça, parce que c'était pareil, parce que du coup, quand je suis revenu à Paris, et que lui, avait fait son job, il y avait plus de boulot encore que j'avais. Longtemps, en plus, c'est hyper dur, mais il a genre 6-7 ans. Il le sait tous les week-ends.
Collègue ou...
Bah, il a repris un poste en France où il avait encore plus de responsabilités, à un niveau où la boîte n'allait pas très bien, et là, il est racheté depuis. Et donc, il y a suppression de poste sur suppression de poste, et il se chopait les postes de tout le monde. C'était devenu vite ingérable. Et donc, du coup, il faisait lundi, dimanche. Et vraiment toute la semaine, donc pas juste le matin, dimanche. Toute la journée. Moi, je me suis dit, wow, donc avoir un bon plan de crève et tu réussis ou tu as un beau salaire, c'est aussi synonyme de je fais du lundi dimanche.
Ouais, c'est ça.
Et mon frère qui a 2 ans de plus, quand lui a fini ses études supérieures, genre un petit peu avant, parce que du coup, il avait un an d'avance, moi j'ai pris mon retard en échange pas, donc du coup, ça faisait un décalage de 4. Et donc, je l'ai vu aussi en poste tôt en audit chez EY, et j'ai vu qu'ils faisaient aussi pareil, ils avaient de taré. Vraiment de taré. Genre, ils rentraient à minuit tous les soirs. Sérieux, quoi? Un minute tous les soirs. Et j'ai dit ça, j'ai dit, je vois mon père, je vois mon frère, je dis, mais c'est moi, les gars. Moi, je veux vraiment pas ça, quoi. Ouais. Ça me fait pas kiffer, moi qui suis un poil hyperactif, et en vrai, j'ai tout le temps, j'ai besoin de me dépenser, sinon je suis vraiment nerveux. Je me dis, mais c'est pas du tout pour moi, c'est le job, les gars. Et donc, ça m'a, quand mon pote m'a dit, ouais, je suis coach sportif, j'ai dit, écoute, je peux venir à une séance, je regarde de loin, je vois comment ça se passe.
Ouais, ouais, ouais.
Et vraiment, ça a été le déclic. En fait, j'ai pas mis 50 ans pour réfléchir. J'ai eu une séance, j'ai dit c'est cool.
Ouais.
Deuxième séance, j'ai dit Ok, mais c'est génial, c'est chouette.
Ah, c'est trop cool.
Après, il m'a dit, je gagne temps et tout, je dis, mais en plus.
En plus, tu gagnes rien.
Mais tu gagnes rien. Genre, bâtard. Je me dis, genre, un coaching.
Tu fais quasiment une journée de travail.
Tu fais exactement. Voilà. Je me suis dit, je fais ma journée de travail d'ingénieur. Et moi, j'ai fait Bac plus 5. Et tu peux l'avoir au BP avec Bac plus 1. Et je me dis, mais attends, mais c'est n'importe quoi.
Ouais, c'est injuste pour les gens.
C'est injuste, genre, mon niveau d'études, il n'est pas payé à sa juste valeur.
Non.
Et je me suis dit, ok, donc, on arrête la course au diplôme, on arrête la course au training. J'ai vu ça. Et ce qui est très bien, c'est que mon père qui m'a toujours poussé à faire beaucoup d'études, etc., pour avoir l'assurance, le jour en main, que j'ai construit mes posés de dossier, j'ai dit, voilà, j'ai envie de faire ça. Mais j'ai préparé, je me suis dit, pourquoi je vais faire si ça. Il m'a dit, ok, fonce.
Ah, cool.
Il y a eu zéro résistance.
Super. Ah, trop bien.
Accompagnement de ouf, on m'a dit, ok, c'est une très bonne idée.
Bah,
de toute façon, t'as Bac plus 5, tu fais ce que tu veux. Si jamais ça va pas, tu retournes.
Ouais.
Il me dit, voilà, si t'en as marre, que là ça te plaît pas.
Bah, t'as un parachute en fait. Si jamais il y a un souci, au moins tu peux retourner.
Mais c'était plus dans cette idée-là en fait qu'on m'avait poussé à faire des études. Ouais. Donc, avec le recul, du coup, j'ai pas. Pendant un moment, j'étais un peu amer à ce niveau-là. Puis maintenant, j'ai une autre compréhension, donc je le suis plus. Puis ça m'a apporté un peu amer de me dire, j'aurais préféré faire les compétitions de sport que je voulais, peut-être que j'aurais des filles plus tôt. Avoir plus de choix, mais cela dit, c'est aussi peut-être tout ça qui m'a amené là. Peut-être qu'en voulant, en ne me retenant pas, je ne serais pas devenu prof de sport, j'aurais fait autre chose, je serais passé du coup sur des études et je serais peut-être moins heureux.
Parce que, je sais pas. Parce que du coup, ce moment à Lyon, peut-être que c'était le premier. Tu vois et, ouais, je sais pas.
À Lyon, c'était plutôt des clics familiaux. Des clics, genre, je suis pas bien. Mal un peu de la vie, quoi.
Ouais.
Très très loin.
Ouais. De voir rentrer.
Je pense que je n'étais pas encore, assez mature pour être.
L'éloigné de.
Quitter le cocon familial, c'était un peu trop.
Ouais.
Un peu tout d'un coup. Donc ça, je pense que ça a énormément pesé dans la balance. Mais après, ouais, pareil, le déclic, il est venu comme ça. C'était l'idée qui était un petit peu enfouie.
Mmh.
Et je me suis aperçu qu'en fait, ouais, c'était pas compliqué.
Mmh.
Et pour le coup, le bagage universitaire m'a quand même été utile. Pour ensuite ma formation, parce que t'as des acquis de développement, de traitement d'information, des outils organisationnels que tu n'as pas forcément quand tu ne fais pas études et qui peuvent être utiles quand tu veux développer un projet. C'est plus sur ces points-là où je me suis dit, ok, là j'ai un avantage par rapport aux autres, où bah, je sais faire des rapports de stage, je sais faire ci, je sais faire ça, faire des documents et ça, ça m'a aidé. Notamment, faire les tableaux, et ça peut être utile quand tu fais ton business, quand tu passes de charbon, ce truc-là. Je me dis, donc il y a toujours un truc cool à retirer.
Ouais.
Même si je ne vois pas le lien direct entre Bac plus 1 qui est prof de sport.
Mmh.
Ouais, mais par contre, quand tu parles à tes clients, ils sont aussi contents
de
dire que tu as fait des études. Peut-être que tu le comprends mieux, finalement,
que
quelqu'un qui n'a pas fait d'études, qui ne sait pas peut-être les difficultés inhérentes à ce genre de job. Donc je me dis, oui, en fait, tu as toujours. T'arrives toujours à piocher des trucs utiles dans ce que t'as fait, même si de prime abord t'as aucune convergence.
Enfin, si t'arrives pas à retirer quoi que ce soit de ce que tu fais, moi j'apprends tous les jours. Quoi.
Ouais.
Tous les jours, il y a au moins un truc que j'apprends, le truc à la con, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. Je sais pas encore. Enfin, si aujourd'hui il y a plus plein de trucs, notamment le low kick, il y avait trois éléments différents. Voilà.
Trois zones précises.
Mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire que si t'arrives pas à retirer de leçon de quoi que ce soit dans ta vie, tu progresseras pas vraiment. Quoi.
Ouais.
Et notamment, à chaque fois que tu fais une séance de sport, pas pour toi, mais
ouais,
que ce soit. Donc si j'appuie avec mon petit doigt,
c'est ça.
Plus vite.
Tiens.
Ou si. Tiens, en fait, il fallait que je ramène mes mains un tout petit peu plus vers l'intérieur, ça marche. Ok. Il faut que je baisse mes euros. Ah, ok, tu vois, c'est juste.
C'est juste le défi où tu te dis, mais ça fait genre 4 ans que je fais les euros, et c'est maintenant que
tu vois
ça.
Non, mais c'est.
Non, ça,
merde.
Ça change les choses.
Oui.
Tu dis, mais c'est bizarre. Comment ça se fait? T'as toujours aussi carré de chocolat noir?
Non, ça va.
Non, ça va aller.
Ouais, c'est bon, là,
je. Ouais, je suis d'accord. Ouais, j'apprends tous les jours. Et ça, c'est un truc que j'ai pas honte de dire, j'apprends de tout le monde. Et c'est pour ça que souvent j'écoute tout le monde, même les débutants, même les gens qui ont genre 4 semaines de muscu, je les écoute, je dis, moi déjà je suis passé par là, donc aucun jugement. Et je me surprends souvent à me dire, putain, mais le mec, les débutants, il a appris le truc.
Ouais, mais c'est important de l'observer aussi, de voir.
Il a d'autres regards.
Ouais, c'est ça. Et je crois que j'avais un pote qui lui est parti faire de la musique.
Ok.
Voilà. Donc guitariste niche.
Ouais.
Et en fait, un jour, il me dit ah, je joue, parce que moi, je joue du banjo. Voilà. Et on dit ah, ça me dirait qu'on fasse genre de l'impro, toi et moi.
Ouais.
J'en ai moins, un niveau de merde, quoi. Mmh. Vraiment, j'ai encore un niveau de merde à manger, je passe avec ça, tout ça. Et du coup, et ce qu'il m'a dit, c'est genre, on était en train de. Voilà. Il dit ah, c'était quoi ça? Je fais, bah, je sais pas, ça sonnait bien. Il dit ouais. En fait, c'est marrant parce que moi, j'étudie la théorie musicale depuis 7 ans.
Ouais.
Et le truc, c'est que malheureusement, ces cheminements-là, je sais pas quoi, et ben, il dit ces cheminements-là, malheureusement, ils ont été automatisés chez moi. Je fais plus ça à l'oreille. C'est-à-dire que y a des, tu sais, maintenant, ils voient des chemins. C'est-à-dire que moi, par exemple, ça, je voudrais voir ta programmation aussi. Quand tu programmes, je sais pas, tes semaines d'entraînement ou quoi. Parce que moi, je suis un peu bloqué. C'est pour ça que j'ai été appelé à l'autre. Parce que c'est un peu sur un. Tu vois, dans une. Genre, quand j'imagine faire un plan d'entraînement,
ouais.
Je peux pas reprendre à zéro parce que c'est pas possible. Genre, j'ai déjà des chemins qui sont faits dans ma tête. Et c'est pour ça que j'essaie de lire plein de trucs et de me renseigner parce que j'ai besoin de rebrasser un peu le tout. Quoi. J'ai envie de stagner, l'eau stagnante, c'est bien, allez, vas-y, on met un petit coup de. Voilà.
C'est bien de fouiller,
ouais, j'ai besoin de revoir de nouvelles choses et puis de. C'est même pas rajouter dessus, c'est de transformer ce que je suis en train de faire pour essayer de. Je sais pas, dans une nouvelle direction, quoi. Quoi.
Mm-hmm.
Et du coup, ouais. Parce que comme ce que vous faites, ça fonctionne, tu vois que vous progressez et que c'est propre, bah je me dis, bon bah, il y a un truc qui fonctionne là, hein, donc je dois faire des trucs, genre maintenant. Tu sais, quand je vous ai dit, là vous avez fait plein de soupes terre,
mm-hmm.
Et maintenant vous allez faire du lip. Ouais.
Ouais. Ouais, sur le papier, ça n'a pas de sens.
Hein. C'était 5 x 6 à 80%. Et maintenant, vous allez faire votre parcours de grip au plafond. Ouais. D'accord. Ça fonctionne. Et c'est intéressant parce que du coup, dans ma tête, peut-être que c'est justement de ne pas aller autant en dur. Parce que vous avez l'air d'aller en dur, vous, mais je ne sais pas si c'est vraiment ça. C'est juste une vue de l'extérieur. Un truc, genre, c'est. On tape dessus, tu sais.
Ouais,
ou alors ouais, bah, peut-être, mais après, je sais pas, peut-être que c'est intégrer un plan plus long, tu vois,
mm-hmm.
Et auquel, justement, bah, c'est dur là, puis après, c'est mou, enfin, mou. C'est plus léger là pour justement que. Enfin, bon, voilà, quoi. J'aurais été curieux de savoir comment. Déjà, sur quelle longueur tu mm-hmm. fais un cycle. Si c'est un cycle,
ouais. Ouais,
je sais pas si c'est un cycle ou si c'est une programmation.
Bah, ça a été donné, mais. En fait, c'est pas un mot de cycle. C'est-à-dire qu'en formation, on apprend à fonctionner en cycle,
ouais.
Mais de façon même hyper équipée, hyper
ouais.
Segmentée, des trucs très précis, où tu vas dire, je vais faire du volume, je vais faire la marche, je vais faire la porte,
ouais.
Je vais arrêter, tant de pourcents, ton verre, ouais. Ton repos, enfin, c'est avec telle méthode, enfin, c'est hyper, hyper précis.
Ouais.
J'ai fonctionné un tout petit peu comme ça au début, après je me suis rendu compte que déjà c'était un peu prise de tête, tu avais moins d'aspect plaisir, et puis que par rapport à mes besoins, ça ne matchait pas trop. Parce que tu as plein d'exercices où déjà, ça ne t'adapte plus. C'est très bien avec les charges, mais dès que tu pars sur les entraînements plus hybrides,
ouais.
Ça ne marche plus. C'est, ouais. c'est ces méthodes très, très ancrées au sol où il faut absolument mettre sur le papier. J'aurais énormément discuté de ça, justement, de cette préparation avec mon meilleur ami qui est maintenant vit au Kenya, donc qui est marathonien professionnel. Et c'est mon pote d'enfance de l'air.
Ouais.
Et lui, et rester à fond dans la course. Mmh. Et moi, je suis passé donc, du coup à fond dans la muscu. Donc, deux sports, a priori, très différents.
Ouais.
Simplement, il y a un pilier qui est énormément en commun, c'est que ce sport, c'est le physique, si je puis dire. C'est-à-dire que tu as plein de sports où, genre, au tennis, bah, c'est jouer à la raquette. Les arts martiaux, c'est donner des coups, etc. Le ski, c'est glisser. Là, le sport consiste à travailler juste les qualités physiques, pures et dures.
Mmh.
La course, c'est de courir, c'est l'endurance. La musculation, c'est l'hypertrophie musculaire, c'est plus de force.
Mmh.
Ça se résume à ça. Donc, nous, on est. Notre sport, ça se résume à augmenter les qualités du corps. Et je lui disais, mais toi, tu fais comment sur tes planifs? Est-ce que tu fais? Et moi, je lui parlais de si, je lui disais à l'époque, ouais, tu serais plus performant que faire pareil sur endurance. Il m'a dit, et c'est là où j'ai bien aimé son discours. C'est lui qui est très bon, qui avait fait les Olympiades jeunes à l'époque, donc vraiment bon niveau.
Et ben, il me disait, non, mais moi, je sais pas de planning, parce qu'il me disait, alors, grosso modo, voilà, je sais que tes jours, tout comme nous, on dit, je vais faire plus les jambes, je vais faire la journée, je vais faire ci. Lui, il disait, je vais faire du fractionné, ou là, je vais faire vraiment du fond à 80%, etc. Mais il se disait pas, que toutes les 3 semaines, je dois absolument changer. Si je fais ça, et son entraînement, il paye, il a toujours continué à payer. Il se remettait en question quand ça payait plus, et là, il modifiait les choses. Et c'est vrai qu'après coup, je me dis, ouais, bah, c'est vrai que ça fonctionne pour lui, puis j'ai essayé pour moi de me dire, je me prends pas la tête, je vais le faire un peu comme ça. Avec les notions basses de théorie de gel, je sais qu'il faut à peu près temps de repos, je sais que faire à peu près temps de répétition pour être dans tel régime, etc.
Tu peux faire bras lundi, mardi, et après, jeudi, vendredi.
Exactement, avec les notions basses. Et ça a fonctionné, j'ai fait que de progresser. Et donc, du coup, j'ai jamais fonctionné en site. Par contre, j'ai toujours tout noté.
Ouais, ça marche.
Et je marquais à chaque fois que je faisais le modif, je mettais la date. Ce qui fait que quand je commençais à stagner, je me suis dit, bon, est-ce que je vais avoir un lien avec le repos nerveux, ou je me suis lassé, ou je ne sais pas, autre explication. Mais le fait de dater, ça me permettait quand même de me dire, bon, ça correspond théoriquement à ça, donc c'est normal, je suis à une phase palier où je stagne. Ou alors, je me dis, non, il n'y a pas de logique, ça fait peut-être trop longtemps que je fais cet exercice, c'est vrai, ça fait 3 mois. Ouais. Je change, on va en plus bête, par exemple, tu passes des dips lestés sur ton banc, ah, des anneaux, des trucs aussi. Plus comme ça que je procède, en fait, c'est de façon empirique, mais avec une petite augmentation, à chaque fois, sans jamais tout remettre en cause, parce que je me suis aperçu, et c'est ce qu'on me disait au tout début dans mes coachings, et à l'époque, je n'étais pas expérimenté, donc je ne le justifiais pas, je le justifiais mal, mais moi, j'aime bien quand ça change en coaching, quand on fait toujours des trucs différents. Et en fait, quand tu veux progresser, non, c'est pas ça.
Ouais.
Je veux dire, à un moment donné, si tu n'aimes pas la musculation, tu ne fais pas de musculation. Je ne peux pas demander à quelqu'un de dire tous les jours un nouvel exercice.
Ouais.
Parce que ton corps, il n'a même pas le temps de s'habituer.
Ouais,
quand tu n'as même pas les gains, il ne se passe rien. Alors, il y a une règle que j'ai observée. Alors, peut-être que j'invente quelque chose, mais pour le coup, j'ai observé sur quasiment tous mes clients et sur moi le premier, la règle des 3 semaines. J'ai remarqué que les adaptations physiologiques, elles sont au bout de 3 semaines.
Ouais.
C'est ouf.
Ouais, non, mais
sans l'avoir lu nulle part, j'ai remarqué que toutes les 3 semaines, à la fin des 3 semaines, pouf, je passe un cap. Je peux augmenter la charge, je peux faire un truc.
Mais c'est.
Et donc, effectivement, s'il y a bien une petite règle que je respecte, c'est cette règle des 3 semaines.
D'accord.
Où toutes les 3 semaines, j'augmentais, je commence à réfléchir.
Tu fais un truc, quoi.
Voilà.
D'accord.
Par contre, quand je vois que je stagne après 3 semaines, je me dis que. Donc, il y a peut-être quelque chose à gérer. Donc, soit en général, je maintiens le rythme, ou attendant que ça progresse.
Ouais.
Et si ça ne progresse pas, je vais changer d'étau pour peut-être reposer mieux, justement. Je fais une autre variante.
Donc, en gros, tu copies-colles semaine 1, tu augmentes quelque chose sur la semaine 2, tu augmentes quelque chose sur la semaine 3.
Exactement, gros, c'est pas forcément pas.
Bam. Ouais, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui augmente quelque part.
Mais à chaque fois, il y a une augmentation, une petite incrémentation, en fait, c'est ça. C'est
soit
si
une variante,
soit une petite incrémentation. Ouais. Soit une variante.
Soit un set, soit une difficulté supplémentaire avec je ne sais quoi, qui change.
C'est un peu comme ça que je fais, comme une sorte de vaccination où tu augmentes un peu la dose et tu deviens de plus en plus résistant.
Ouais.
Et en restant quand même sur des thématiques, pour que le muscle se repose. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Mais en restant sur le même truc. Et si jamais, par exemple, je vois que j'ai mal, typiquement, j'ai voulu absolument m'acharner sur le développé couché en disant je dois faire le développé couché, jusqu'au moment où je vois que, en datant, j'ai mal, j'ai toujours mal, il ne se passe rien. Donc là, tu fais sauter le développé couché et on l'a remplacé par autre chose.
Ouais.
Et en essayant quand même à chaque fois aussi d'être sur un bon équilibre entre entraînement fonctionnel et entraînement avec charge. Donc vraiment quelque chose qui puisse être plus facilement reproductible avec la réalité du terrain, si tu dois faire un déménagement, si tu dois porter quelque chose.
Ouais.
Pas d'isolation dans l'espace. Et
Donc tu veux dire pas de... Non, c'est parce que je voulais faire du... Genre pas de biceps curl par exemple, c'est ça?
Par exemple, oui, typiquement le biceps curl, si tu fais les tractions, tu les travailles aussi en supination.
Ouais.
Mais en plus, tu travailles le dos, tu travailles les fixateurs, tu travailles ton gainage abdominal. Tu travailles tellement de muscles que l'utilité d'isoler un muscle, à moins d'avoir une déficience à cet endroit-là et que tu dois la rattraper, j'en vois pas l'intérêt.
Une question de temps aussi, quoi.
Ouais.
Au-delà de. Tu vois, il y a un moment. Tu
peux pas tout faire.
Non, à moins que tu fasses 2 entraînements par jour pendant 1 heure
et quart. Ce que j'ai fait et ça a jamais tellement payé. Je suis arrivé à une grosse séance de fatigue à l'époque où je faisais beaucoup, parce que du coup j'ai essayé un peu toutes les méthodes, beaucoup d'électrostimulation.
Ah, j'ai jamais essayé ça.
Je peux pas essayer. C'est terrible.
Ah si, enfin.
Un complexe.
Ouais, j'avais un pote, mais on s'amusait surtout à le mettre à des endroits.
Ouais.
Et à mettre à fond, et juste pour voir ce qui se passait.
Ouais, voilà. Ce qui se passait.
C'est très drôle. Ah, mais très on n'a pas vrai. Fait de vrai circuit.
Bah, ça marche bien. Ça marche même très bien. Sur plus pour la force que pour la hypertrophie.
Ouais.
Et après coup, je m'en souviens que j'avais une phase vraiment de décroissance en termes de performance sur le squat.
Ouais.
Après, j'avais fait le lien direct et je m'étais rendu compte que c'était la perte d'inertie quand j'avais arrêté mes séances d'électro.
Ah, c'est
je travaillais un cycle de force pure.
Ouais.
D'abord force explosive, après force pure sur mes quadriceps, qui était donc pire séance que je faisais.
Ouais.
Et à l'époque, je me disais, je ne sais pas si ça marche, mais bon, je le fais. J'avais fait de retourner à la salle d'après l'entraînement. J'ai pas envie de re-solliciter trop les tendons, solliciter les articulations. Ouais. Je vais refaire une séance électro. Et en fait, je m'en suis aperçu seulement quand j'ai arrêté qu'il y avait un lien quand je le faisais. Parce que j'ai eu une perte, il n'y avait aucune raison que je sois moins bon, j'avais pas de douleur.
Ah, c'est marrant, donc ça marche
bien. Et j'avais perdu, pas beaucoup, mais au lieu de squatter 4 fois à 140, bah, je squattais peut-être que 2 fois.
Ouais,
ça, c'était une belle perte.
Ouais,
donc, j'avais enlevé une séance, et la séance que j'avais enlevée, c'était une séance de 30 minutes d'électrostimulation.
D'accord.
Donc, ouais, et l'électro. Et donc, quand j'avais été rendu compte de ça, je m'étais dit, bon, allez, je vais rien incrémenter. Et je suis passé, du coup, pas dans une mauvaise phase, mais dans une phase où j'étais devenu un peu taré, quoi. Où j'avais tout doublé. Je faisais un entraînement traditionnel.
Ouais.
Et le matin, chaque jour, je faisais un entraînement d'électrostimulation. Et là, du coup, c'était hyper spécifique.
Ça marche comment? Tu poses tes trucs, t'envoies la décharge? Non, tu fais des exercices en même temps.
Non, alors là, ça sert à rien. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'avec Complex, t'as un vrai suivi. Ouais. T'as un kiné qui est spécialisé là-dedans, donc qui est très bon,
ouais.
Qui était hyper, hyper actif. Et moi, je lui ai posé, je l'ai emmerdé, hein, ce gars-là. Je lui ai posé des dizaines de questions.
Ouais, faut,
et c'était hyper intéressant parce que parfois, voilà, je me suis dit, peut-être que je vais poser des questions clichés, il va dire encore un musculeux et tout. Je disais, oui, alors pour l'hypertrophie, pour la puissance explosive, par rapport au karaté, je voudrais gagner un punch et tout. Mm. Le mec était hyper sympa, il répondait tout le temps. Je disais, alors, est-ce qu'il faut que je travaille en même temps? Il me disait, non, il n'y a pas de retour scientifique qui justifie.
Mm.
Et après, pour avoir essayé, c'est galère, le truc a été fait tomber.
Quand tu bouges, avec la sueur,
c'est pas fait pour faire des petits squats légers, ce que je faisais quand j'étais pressé. Sinon, je faisais du style chaise pendant la contraction. Je pensais que j'étais obligé d'être à 90, sinon j'étais mal. Chaise pendant la contraction, et pendant les petits cycles de 6 secondes de récupération, je faisais des squats. Pendant 25 minutes, on dirait que c'était. En termes de renfort, c'était l'horreur, absolument. C'était l'horreur sur terre, et les gars à côté me regardaient, je pensais, quand j'étais coach à Vincennes, c'était la salle au Sacticier, là qui me prenait vraiment hein, pour un amateur, je me disais, ah, fais des squats, c'est rien ce que tu fais. Après, on parlera, parce que franchement, c'était quasiment les pires séances que j'ai jamais faites, celle-ci. Ça payait pas mine, mais ça marchait très bien, et donc je suis tombé un peu dans un mauvais délire de trop, où du coup, je me suis dit, bon, allez, je suis pas satisfait, je veux plus de triceps, plus de puissance. Je faisais l'entraînement lundi matin de triceps.
Mmh.
J'avais tous les jours ma séance traditionnelle de muscu et à chaque fois j'avais un groupe musculaire. Donc j'ai testé quasiment toutes les zones. Presque toutes les zones.
Ouais.
Abdos, biceps, triceps, pec. Pec, un peu risqué parce que mine de rien, sur le côté gauche, près du cœur, de temps en temps ça me faisait des petites interférences avec le rythme cardiaque. Ouais. Ah, parce que moi je poussais la machine comme un sourd. Je voulais avoir les. Ouais, je voulais. C'est vraiment ça. C'est vraiment cette contraction. Je ne sais pas quoi faire, les paroles étaient remplies, je me disais, je suis bloqué.
Ah, mais
surtout quand tu faisais les triceps ou les biceps, avec ton truc, je m'en souviens tellement bien que ça, tu vois, ça, j'arrive bien à mettre le truc, j'avais la manette ici, j'appuyais, genre, augmenter. Puis à un moment donné, t'as un réflexe où le doigt fait ça, mais tu n'as pas à senti venir.
Ouais.
Tu fais ça, et là, quand tu veux enlever, mais du coup, tu ne peux plus dire à quelle commande te tombe des doigts, tu dois attendre la fin de la contraction parce que tu ne peux plus. T'es comme ça, et là, tu te dis, putain, je m'inflige des trucs de ouf.
Qu'est-ce que je suis en train
de faire? Le cerveau, tu peux. Naturellement, on ne le ferait pas, parce que tu arrives à avoir du vrai 100%, qui théoriquement n'est pas possible.
Donc,
là, tu arrives à avoir du vrai 100%, et tu vois, parce que ton corps, t'es comme ça, dans les positions, et je m'en souviens, le pire, c'est quand les patchs se décollaient. Ça te fait, c'est pas visible, mais toi, tu le ressens, pour maintenir le contact, t'as une sorte de mini-arc. Quand c'est complètement décollé, tu le sens pas, et ça brûle, ça te fait une brûlure. Et ça, c'était une douleur, et tu le sentais, c'est très particulier, quand ça se décolle, tu sais que ça se décolle. Ça te fait des coups, t'entends, tu fais, oh putain, et là, tu peux pas, t'es que là, c'est que t'es de bras, tu dois attendre, t'es comme ça, tu... Et ça, c'était terrible. Et j'en ai fait, ça a fonctionné. Sauf que là, en fait, c'était mentalement insoutenable comme rythme, de faire le matin électro, genre, t'es pas réveillé, tu commences, tu t'électrocutes, quoi. 7h30, tu fais les trucs.
Déjà, t'es bon à faire du. Parce que je crois tous les jours, quoi. Ouais. Déjà, c'est bien, t'as un dur au Mac, c'est cool.
Ouais. Ouais. Et ça, c'est pas si simple, t'as plus 3 ans, genre, tu fais attention. Ouais.
J'en ai fait une l'autre jour, là, j'ai écouté, c'est genre. Je savais ce qui allait se passer,
c'est exactement ça.
Parce qu'en gros, j'ai fait un truc qui s'appelle la Willy Prof méthode.
Oui, la méthode Willy Prof, bien sûr. Et c'est là que j'ai commencé.
Et du coup, bah, j'avais un peu la tête là dans les labs. Et donc, moi, je fais ça assis parce que j'ai vu qu'il y a plein de gens qui sont là, genre, ils se mouvaient la tête parce que je faisais poirier dans ma douche en même temps que, tu vois, genre, les gars, je vous explique. Hein. Et du coup, c'était là, genre, et genre, l'eau froide sur les pieds, donc ouais. Je sentais qu'il y avait des nerfs, j'étais là, après, je fais, allez, j'ai 2 secondes de courage. Après, j'ai.
C'est ça.
Et après, tu remets ta respiration
tranquille. Et c'est bon, tu fais en deux temps sinon. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un premier passage. Passage qui fait un peu je mets tout de côté, je réfléchis un peu, je mets le savon,
ouais.
Et quand je repasse la deuxième fois, là, je suis à l'aise.
Ouais.
La première fois, c'est un peu choc
thermique,
surtout l'hiver. Parce que du coup, j'ai testé à la montagne, c'est hardcore. Avec de l'eau de la montagne, bah, l'eau froide de la montagne,
c'est pas la même.
Déjà, tu vois bien quand tu bois, ça tue les gentils. Ça sent la tête. Et j'ai réussi à la montagne, comme l'hiver, quand je rentre du ski, genre. Ouais, ça fait quasiment 2-3 ans que je fais ça. J'ai pas pris une douche chaude à la montagne. Je fais skier.
Wow.
Douche froide direct. Et en fait, étonnamment, c'est presque plus simple. Parce qu'en fait, c'est tellement froid que tu n'as plus une sensation de froid.
Ah, c'est tout.
À un stade de froid.
Ouais.
C'est plus froid. C'est plus le paramètre, genre.
Douleur.
Ouais. C'est quasiment genre. Oppressement, tu ne peux pas respirer.
Ouais.
Mais là, c'est un peu léger. Donc, à la rigueur, tu peux faire un petit peu le mec un peu. Un peu doux, un peu sweet, oh, ça
va bien.
Là, t'es dans un autre stade, un stade quasiment sûr, oui, tu dis putain, c'est pas des. C'est plus une notion de plaisir, t'as l'impression de faire un challenge, comme moi je marche au challenge, j'ai l'impression de faire un challenge. Et c'est là où tu vois la différence, c'est que quand tu mets sur la tête, ça me fait une migraine instantanée. C'est là où je vois que du coup je dois pas rester là, ça me fait pas, c'est pas assez froid.
Ouais.
Mais c'est tellement froid à la montagne que genre, je le mets partout sur le corps, ça tient,
ouais.
Ça passe.
Et le froid, c'est vraiment tellement froid que.
Ouais, et quand je le mets là, genre. Mais vraiment mal de crâne, et là je suis pas du tout migraineux. Genre ça me prend, et là je me dis, ok, là je dois avoir une vasoconstriction de porc.
Ouais,
ça va m'exploser, c'est pas très bon. Donc je sais que je vais genre hop, très rapide sur la tête. Après le corps, je peux rester un peu plus longtemps. Mais ça reste des douches de. Une minute, hein, c'est
très rapide.
Mais par contre, quand tu éteins ta douche et tu sors, tu vois la fumée qui sort.
Ouais.
Tu sens ton corps tout respirer, et c'est surtout cette sensation-là qui elle est incroyable. Et ça, tu ne l'as que quand tu as de l'eau très froide.
Quand
l'eau ici, ça ne marche pas.
Ouais.
Ça, c'est un vrai kiff. Et là, pour le coup, tu commences à être plus dans la méthode du mode. Tu as un froid qui est suffisant pour que ça fonctionne.
Je crois qu'il y a des études qui montraient que moins de 15 degrés, ça peut fonctionner.
Ok.
Genre pour l'effet froid, quoi. Enfin, les bénéfices du froid, c'est à partir de 15 degrés d'eau. Mais je n'ai jamais essayé de savoir à quelle température
est l'eau. Je ne suis pas curieux, mais si on a parlé, c'est.
Ouais, il faudrait voir. Je ne sais pas. Je crois que tu veux manger à pisser.
Vas-y, c'est au bout du couloir.
Genre, c'était trop intéressant, mais j'ai dû. Là, il y a un break, donc je vais en profiter.
Un track.
Et c'est fini pour la partie 1. Partie 2 qui arrivera dans les prochains jours. Nous aborderons tout ce qui est la partie récupération, notamment thérapie par le froid, chiropratique, kinésithérapie, cabine d'isolation sensorielle, toutes les différentes types de récupération qu'on peut trouver. Et également une petite partie sur le développement personnel, la méditation et tout ce qui a trait au cerveau. Merci beaucoup d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à me mettre 5 étoiles si vous écoutez ce podcast sur iTunes. Et à très bientôt.